Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi, Yubi Suryanto, on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, jeudi 18 août 2016. Il est 3h du matin du temps à Jakarta maintenant. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commence par le journaux, suivi du commentaire aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission la rubrique distorsion, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Voici le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Nous commençons avec les titres. Le président renforcera la connectivité nationale. Le 15e congrès international de la tourbe en Malaisie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères appelle à un cessez-le-feu dans le sud des Philippines. La Chine confirme l'ASEAN est un partenaire important. Et enfin, l'ambassade d'Indonésie à Caracas a organisé la gastronomie indonésienne. Voici le journal complet. Le prix élevé de certains produits de base de l'Indonésie est l'un des problèmes qui sont devenus des obstacles dans des activités commerciales internationales. Le prix élevé des produits de base a fait des produits commerciaux de l'Indonésie sont difficiles de rivaliser avec les produits d'autres pays qui sont offerts à un prix inférieur. L'une des principales causes du prix élevé des produits de base est le système logistique national qui est inefficace. Cela rend finalement les coûts de distribution gonflés et a l'impact sur la hausse des prix des produits. Par conséquent, l'amélioration du système logistique national est une chose importante qui doit être réalisée. Un effort pour réorganiser le système logistique national et de renforcer la connectivité nationale entre les régions. Il a été présenté par le président Joko Widodo dans son discours officiel en 71e commémoration de l'anniversaire de la République d'Indonésie le mardi 16 août 2016 à MPR DPR Jakarta.
Penguatan konektivitas nasional diproyeksikan mampu.
Le renforcement de la connectivité nationale doit être capable de créer l'efficacité du système logistique national pour soutenir la création de la stabilité des prix des produits. Le renforcement de la connectivité nationale est l'un des efforts de l'Indonésie pour faire face aux conditions économiques mondiales permettra d'améliorer à l'avenir.
Prospek perekonomian global diperkirakan akan membaik meskipun.
La perspective dans l'économie mondiale devrait améliorer, bien que nous devions travailler dur pour faire face à l'incertitude qui vient du ralentissement économique dans de nombreux pays en développement. Selon le président Joko Widodo, le renforcement de la connectivité nationale fait partie de programmes économiques qui ont été formulés précédemment par le gouvernement pour améliorer l'économie indonésienne. Le consulat général de la République d'Indonésie à Kuching, la Malaisie, a assisté à l'ouverture du 15e Congrès international de la troupe qui a eu lieu à l'hôtel Pullman, Sarawak, en Malaisie, le mardi 16 août, qui a discuté du traitement de la troupe. Jahar Gulton, du consulat général à Kuching, a déclaré que c'était le premier congrès qui a eu lieu en Asie, assisté par des experts de la troupe et les entrepreneurs de palmiers à huile provenant de différents pays. Selon Jahar, à travers cet événement, il peut avoir des connaissances sur le monde de l'industrie, l'agriculture, l'environnement, y compris la gestion des tourbières, ainsi que l'introduction du tourisme indonésien au monde.
Jadi barangkali pengalaman-pengalaman ini nanti bisa kita share dan kalau melihat.
Nous pouvons partager ces expériences. La plus grande tourbière tropicale existe à Kalimantan, Sumatra et en Papouasie. Je pense que la plus grande tourbière en Asie, probablement en Indonésie. Je pense donc qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre du congrès de la tourbière internationale. Nous utilisons cette occasion pour promouvoir le tourisme indonésien aux participants. Parce qu'il y a beaucoup de participants provenant de 30 pays tels que l'Europe, les États-Unis et l'Asie. IPC est la quatrième conférence annuelle tenue du 15 au 18 août 2016. Les participants d'Indonésie représentés par la KJRN, l'expert de la troupe, l'entrepreneur, les fonctionnaires de l'agence de restauration de la troupe, les membres du Parlement et les médias qui atteignent à 100 personnes. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, appelle au ministre philippin des Affaires étrangères, Perfecto Yasay, pour un cessez-le-feu dans les opérations militaires des Philippines contre les groupes armés qui détiennent encore des citoyens indonésiens. Cela a été déclaré par le directeur de la protection des citoyens indonésiens et l'entité juridique de l'Indonésie du ministère des Affaires étrangères, Lalu Muhammad Iqbal, mercredi. L'opération militaire des Philippines a été faite le 13 août 2016 dans le sud des Philippines, y compris l'île de Jolo, qui est prétendument le lieu pour les citoyens indonésiens qui sont pris en otage. Selon Muhammad Iqbal, le gouvernement indonésien a reçu des informations que le cessez-le-feu effectué depuis le 15 août 2016. Pour le gouvernement indonésien, la sécurité des citoyens indonésiens est primordiale. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a également reçu la confirmation du gouvernement philippin qu'un citoyen indonésien de l'équipage de bateau Tugboat Charles, Muhammad Sofian, a réussi à libérer du groupe armé qui prit en otage 7 citoyens indonésiens depuis le 20 juin 2016. La Chine confirme l'ASEAN est son partenaire important et soutient la communauté de l'ASEAN pour maintenir ensemble la paix et la stabilité de la coopération de sécurité régionale. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du Centre ASEAN-Chine, AWC, Yang Xiuping, à l'ouverture de la journée de foire ASEAN-Chine mardi soir, une série de 25e anniversaire du partenariat de dialogue de l'ASEAN et la Chine. Yang Xiuping a dit « Depuis qu'il y a 25 ans, l'ASEAN et la Chine se sont engagés à établir une coopération mutuellement bénéfique, disant des deux côtés dans la région. L'ASEAN est la priorité de la Chine pour sa diplomatie étrangère. » L'ASEAN est un partenaire très important pour la Chine dans divers domaines, de sorte que la Chine soutient aussi la communauté de l'ASEAN d'avancer ensemble dans divers domaines. Par conséquent, les deux parties devraient renforcer la coopération mutuelle pour établir des relations et une meilleure coopération plus bénéfique pour les deux parties dans l'avenir. Il a dit que la diversité culturelle entre l'ASEAN et la Chine était une richesse et pouvait être un moyen de renforcer les relations, les partenariats et la coopération entre les deux parties dans l'avenir. L'ambassade d'Indonésie à Caracas a organisé récemment un festival de la gastronomie indonésienne au restaurant La Cabana, Hôtel Intercontinental Tamanaco, Caracas, au Venezuela. L'affirmation écrite chargée de la fonction protocolaire, consulaire et socioculturelle de l'ambassade d'Indonésie à Caracas, reçue à Jakarta mercredi, a déclaré que Le festival gastronomique qui avait eu lieu du 12 au 15 août 2016 est organisé pour célébrer le 71e anniversaire de l'indépendance indonésienne. Le festival est ouvert au public afin que les populations locales aient la possibilité de connaître l'Indonésie par la nourriture typique et des spectacles de musique et de danse de l'Indonésie. À l'ouverture du festival, l'ambassadeur indonésien au Venezuela, Muhammad Lutfi Witung, a déclaré « L'Indonésie est en train d'encourager la diplomatie gastronomique comme une forme de diplomatie culturelle à l'aide alimentaire comme l'icône de marque de l'Indonésie à l'étranger. Outre d'être un moyen de former une image positive d'un pays à l'étranger, la diplomatie culinaire peut également augmenter l'industrie de l'économie créative, car cette activité stimulera l'ouverture d'un restaurant qui peut accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. Sergiteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Serge Mlantin, voici donc le commentaire ayant pour le titre « Développer le potentiel touristique dans la zone frontalière ». La région frontalière de l'Indonésie est une destination touristique très potentielle à développer. Comme tenue, l'Indonésie dispose 92 îles ultra-périphériques bordant les 10 pays voisins, à savoir la Malaisie, Singapour, les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam, l'Inde, l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Timor-Leste. Tout ce qui peut être encouragé pour devenir un lieu touristique, de sorte que la rapidité de l'économie rurale augmente. Le gouvernement, à travers le ministère du Tourisme, développe le potentiel du tourisme dans la région frontalière, entre autres, en créant des programmes de tourisme de la région frontalière dans des endroits qui sont la porte d'entrée pour les touristes étrangers, en particulier des pays voisins. La zone frontalière a l'attrait potentiel de la nature et de la culture locale qui peut être un aimant pour les touristes étrangers et nationaux. L'Agence du développement de la commercialisation étrangère du ministère du Tourisme, Igede Pitana, a déclaré que les avantages attirés des activités de tourisme de la région frontalière et l'émergence d'un lien émotionnel fort entre la communauté et les touristes. Il y a encore les mêmes racines culturelles parmi les touristes en provenance des pays voisins avec la communauté locale, comme par exemple la ville potentielle à Atambua pour attirer les touristes du Timor-Leste à visiter l'Indonésie à travers la route terrestre. Une autre façon pour le gouvernement est plus importante d'être en mesure d'apporter les touristes des pays voisins et d'organiser une variété de festivals dans ces régions. Il y a 54 festivals qui ont été conçus par le ministère du Tourisme. L'un d'eux est le festival transfrontalier à Atambua, organisé chaque mois de mai à décembre. Cet événement est animé par des concerts de musique, bazar, des courses de chevaux et des courses de motocross. Le ministère du Tourisme a établi une coopération avec l'ambassade de l'Indonésie au Timor-Oriental et le ministère du Tourisme de Timor-Leste dans le cadre de la mise en œuvre du festival transfrontalier à Atambua. À Jayapura, en Papouasie, le même festival a lieu chaque mois de juin à novembre 2016. L'événement est également animé avec des spectacles de concerts de musique, le festival de la nourriture et le bazar. Il est prévu que le nombre de touristes étrangers de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à visiter Jayapura peut atteindre 4500 personnes pendant le festival. Avec le festival transfrontalier à Jayapura, il est prévu que l'économie de la communauté locale peut améliorer parce que beaucoup de touristes de Papouasie-Nouvelle-Guinée dépensent leur argent en Indonésie. Les zones frontalières telles que Batam, Tanjung Karang, Dumai et Antikong sont déjà plus avancées que d'autres. Mais le gouvernement a encore besoin d'améliorer les infrastructures dans les zones frontalières. Les efforts du gouvernement pour introduire le tourisme transfrontalier dans le but de construire et d'améliorer le potentiel du tourisme dans des zones frontalières doivent être soutenus entièrement par les parties prenantes concernées. Parce que les zones frontalières sont les lignes avant tout et une réflexion de l'Indonésie. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ces auditeurs écoutent maintenant le programme quotidien aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie, l'édition du 18 août. Nous allons commencer le 18 août 1945. La Constitution de la République indonésienne est ratifiée dans la séance de la Comité de la préparation de l'indépendance de l'Indonésie, PPKI. Les constitutions de l'Indonésie 1945 et la loi fondamentale du gouvernement indonésien actuellement, depuis le 27 décembre 1949, en Indonésie applique la constitution RIS. Et depuis le 18 août 1950, a appliqué la constitution provisoire de 1950. Le décret présidentiel du 5 juillet 1959, reconstitution de 1945. Avait confirmé à l'unanimité par le Parlement le 22 juillet 1959. Dans la période de 1999 à 2002, le 1945 a été modifié au moins 4 fois pour changer la disposition des institutions dans le système étatique de la République indonésienne. On change la 18 de 1940, la mort de Muhammad Ghaffari. Muhammad Ghaffari, célèbre par le nom Kamalul Mulk, est décédé dans la ville Naysapur, Iran du Nord. Il était un peintre connu iranien. Durant sa vie, Kamalul Mulk produit environ 170 peintures, sont très belles et précieuses. Ensuite, pour ajouter aux connaissances dans le domaine de la peinture, Kamalul Mulk voyage en Europe. En rentrant de l'Europe, Kamalul enseigne la peinture aux artistes de l'Iran. On termine la 1948 est la cessation du feu de la guerre Iran-Irak. L'ONU a annoncé la trêve entre l'Iran et l'Irak après la guerre a duré 8 ans imposée. Le cessez-le-feu est l'un des points du numéro de l'ONU et de la résolution de 598. Après la victoire de la révolution islamique en Iran, les grandes puissances du monde en Iran, le sentiment que ses intérêts sont menacés. Il craint aussi un soulèvement populaire dans la région du Moyen-Orient. Par conséquent, elle a été réalisée dans une variété d'efforts pour renverser le gouvernement islamique de l'Iran. Enfin, Saddam Hussein est entraîné en vain par l'Occident, surtout aux États-Unis, d'attaquer l'Iran. En 1980, l'Irak a commencé à attaquer l'Iran. L'ONU a émis une résolution telle que les deux côtés ont une trêve. Ses amis, c'était notre rubrique aujourd'hui dans l'histoire de l'édition du 8 août. À demain.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée L'industrie alimentaire et boissons est en mesure de rivaliser dans la communauté économique de l'ASEAN. L'industrie agroalimentaire et boissons indonésiennes est considérée comme la plus forte de faire face à la communauté économique de l'ASEAN. Le haut fonctionnaire du ministère de l'Industrie, M. Pangga Susanto, a déclaré vendredi à Jakarta
que l'industrie alimentaire et boissons était un secteur qui continue de croître et de contribuer à l'économie nationale. Il estime que ce secteur est capable de concurrencer sur le marché de l'ASEAN. Ce secteur prioritaire a une forte compétitivité parce qu'il est soutenu par le potentiel de ressources naturelles telles que l'agriculture, la marine, le bétail, les cultures et la foresterie. Selon les données du ministère de l'Industrie, l'industrie alimentaire et des boissons est le secteur stratégique et joue le rôle important dans la croissance des industries non pétrolières. Ceci est démontré par le taux de croissance positif de 8,20% au deuxième trimestre 2016. M. Pangga Susanto a déclaré que l'augmentation de cette industrie sera soutenue par la disponibilité de l'approvisionnement des matières premières et l'énergie. Par conséquent, le ministère de l'Industrie propose la réduction du prix de gaz. Il est l'un des clés succès pour maintenir la croissance et la compétitivité. D'autres politiques stratégiques sont l'augmentation des normes de produits via la mise en œuvre de la norme nationale indonésienne, ou SNI, l'amélioration de la qualité des ressources humaines par l'application de normes de compétence nationale indonésienne, ou SKKNI, et l'accélération du développement des infrastructures. Une autre politique est la recherche et le développement, l'augmentation de l'utilisation des produits nationaux, l'harmonisation des politiques nationales et régionales et la simplification de la bureaucratie des licences et de l'investissement. Pangga est optimiste si ces politiques peuvent être bien appliquées. L'industrie alimentaire et boissons sont capables de concurrencer sur le marché de la communauté économique de l'ASEAN. Pour cela, nous avons besoin d'un engagement fort de toutes les parties prenantes à l'appui des mouvements stratégiques. Le ministère de l'Industrie a donné la facilité à l'activité promotionnelle, le Conseil de développement commercial de Hong Kong, de l'exposition alimentaire 2016, qui a eu lieu du 11 au 13 août 2016. L'objectif est de montrer les avantages des produits alimentaires et des boissons indonésiens sur le marché international. À cette exposition, le pavillon indonésien a été participé par 22 entreprises des aliments et boissons. Des produits qui ont été exposés sont entre autres le café, le thé, les boissons gazeuses, boissons à base de plantes, le chocolat, la noix de coco traitée, l'assaisonnement instantané, les collations, les nuits instantanées, les algues traitées et le fruit de mer. Chers amis, c'est à la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le prix élevé de certains produits de base de l'Indonésie est l'un des problèmes qui sont devenus des obstacles dans des activités commerciales internationales. Le prix élevé des produits de base a fait des produits commerciaux de l'Indonésie sont difficiles de rivaliser avec les produits d'autres pays qui sont offerts à un prix inférieur. L'une des principales causes du prix élevé des produits de base est le système logistique national qui est inefficace. Cela rend finalement les coûts de distribution gonflent et a l'impact sur la hausse des prix des produits. Par conséquent, l'amélioration du système logistique national est une chose importante qui doit être réalisée. Un effort pour réorganiser le système logistique national est de renforcer la connectivité nationale entre les régions. Il a été présenté par le président Joko Widodo dans son discours officiel en 71e commémoration de l'anniversaire de la République d'Indonésie le mardi 16 août 2016, à MPR DPR Jakarta.
Penguatan konektivitas nasional diproyeksikan mampu.
Le renforcement de la connectivité nationale doit être capable de créer l'efficacité du système logistique national pour soutenir la création de la stabilité des prix des produits. Le renforcement de la connectivité nationale est l'un des efforts de l'Indonésie pour faire face aux conditions économiques mondiales permettra d'améliorer à l'avenir.
Prospek perekonomian global diperkirakan akan membaik meskipun
la perspective dans l'économie mondiale devrait améliorer, bien que nous devions travailler dur pour faire face à l'incertitude qui vient du ralentissement économique dans de nombreux pays en développement. Selon le président Joko Widodo, le renforcement de la connectivité nationale fait partie de 12 programmes économiques qui ont été formulés précédemment par le gouvernement pour améliorer l'économie indonésienne. Le consulat général de la République d'Indonésie à Kuching, la Malaisie, a assisté à l'ouverture du 15e Congrès international de la troupe qui a eu lieu à l'hôtel Pullman, Sarawak, en Malaisie, le mardi 16 août, qui a discuté du traitement de la troupe. Jahar Gulton, du consulat général à Kuching, a déclaré que c'était le premier congrès qui a eu lieu en Asie, assisté par des experts de la troupe et les entrepreneurs de palmiers à huile provenant de différents pays. Selon Jahar, à travers cet événement, il peut avoir des connaissances sur le monde de l'industrie, l'agriculture, l'environnement, y compris la gestion des tourbières, ainsi que l'introduction du tourisme indonésien au monde.
Jadi barangkali pengalaman-pengalaman ini nanti bisa kita share dan kalau melihat
nous pouvons partager ces expériences. La plus grande tourbière tropicale existe à Kalimantan, Sumatra et en Papouasie. Je pense que la plus grande tourbière en Asie, probablement en Indonésie. Je pense donc qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre du Congrès de la tourbière internationale. Nous utilisons cette occasion pour promouvoir le tourisme indonésien aux participants. Parce qu'il y a beaucoup de participants provenant de 30 pays tels que l'Europe, les États-Unis et l'Asie. IPC est la quatrième conférence annuelle tenue du 15 au 18 août 2016. Les participants d'Indonésie représentés par la KJRN, l'expert de la troupe, l'entrepreneur, les fonctionnaires de l'agence de restauration de la troupe, les membres du Parlement et les médias qui atteignent à 100 personnes. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, appelle au ministre philippin des Affaires étrangères, Perfecto Yasay, pour en cesser le feu dans les opérations militaires des Philippines contre les groupes armés qui détiennent encore des citoyens indonésiens. Cela a été déclaré par le directeur de la protection des citoyens indonésiens et l'entité juridique de l'Indonésie du ministère des Affaires étrangères, Lalu Muhammad Iqbal, mercredi. L'opération militaire des Philippines a été faite le 13 août 2016 dans le sud des Philippines, y compris l'île de Jolo, qui est prétendument le lieu pour les citoyens indonésiens qui sont pris en otage. Selon Muhammad Iqbal, le gouvernement indonésien a reçu des informations que le cessez-le-feu est effectué depuis le 15 août 2016. Pour le gouvernement indonésien, la sécurité des citoyens indonésiens est primordiale. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a également reçu la confirmation du gouvernement philippin qu'un citoyen indonésien de l'équipage de bateau Tugboat Charles, Muhammad Sofian, a réussi à libérer du groupe armé qui prit en otage 7 citoyens indonésiens depuis le 20 juin 2016. La Chine confirme l'ASEAN est son partenaire important et soutient la communauté de l'ASEAN pour maintenir ensemble la paix et la stabilité de la coopération de sécurité régionale. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du Centre ASEAN-Chine, AWC, Yang Xiuping, à l'ouverture de la journée de foire ASEAN-Chine mardi soir, une série de 25e anniversaire du partenariat de dialogue de l'ASEAN et la Chine. Yang Xiuping a dit, depuis qu'il y a 25 ans, l'ASEAN et la Chine se sont engagés à établir une coopération mutuellement bénéfique, disant des deux côtés dans la région. L'ASEAN est la priorité de la Chine pour sa diplomatie étrangère. L'ASEAN est un partenaire très important pour la Chine dans divers domaines, de sorte que la Chine soutient aussi la communauté de l'ASEAN d'avancer ensemble dans divers domaines. Par conséquent, les deux parties devraient renforcer la coopération mutuelle pour établir des relations et une meilleure coopération plus bénéfique pour les deux parties dans l'avenir. Il a dit que la diversité culturelle entre l'Asie et la Chine était une richesse et pouvait être un moyen de renforcer les relations, les partenariats et la coopération entre les deux parties dans l'avenir. L'ambassade d'Indonésie à Caracas a organisé récemment un festival de la gastronomie indonésienne au restaurant La Cabana, Hôtel Intercontinental Tamanaco, Caracas, au Venezuela. L'affirmation écrite chargée de la fonction protocolaire, consulaire et socioculturelle de l'ambassade d'Indonésie à Caracas, reçue à Jakarta mercredi, a déclaré que le festival gastronomique qui avait eu lieu du 12 au 15 août 2016 est organisé pour célébrer le 71e anniversaire de l'indépendance indonésienne. Le festival est ouvert au public afin que les populations locales aient la possibilité de connaître l'Indonésie par la nourriture typique et des spectacles de musique et de danse de l'Indonésie. À l'ouverture du festival, l'ambassadeur indonésien au Venezuela, Muhammad Lutfi Witung, a déclaré « L'Indonésie est en train d'encourager la diplomatie gastronomique comme une forme de diplomatie culturelle à l'aide alimentaire comme l'icône de marque de l'Indonésie à l'étranger. Outre d'être un moyen de former une image positive d'un pays à l'étranger, la diplomatie culinaire peut également augmenter l'industrie de l'économie créative, car cette activité stimulera l'ouverture d'un restaurant qui peut accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. » Sergitar, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ce sont toujours d'NFF Rice qu'on vous propose à la Voix de l'Indonésie. Passons maintenant, le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Et cette fois, je vais présenter l'île de Enggano. Au 71e anniversaire de l'indépendance de la République d'Indonésie, 71 drapeaux rouges et blancs ont été hissés à Enggano, l'île la plus externe de l'ouest de l'Indonésie. Cela est le symbole que l'Indonésie dispose de 71 ans d'indépendance et libérée du colonialisme. Le 11e anniversaire de l'indépendance de l'Indonésie, qui a été organisé sur l'île de Enggano, vise à stimuler l'esprit du nationalisme des personnes qui sont dans les îles périphériques. Le lever du drapeau est fait dans les 71 plus hauts sommets de Enggano, 6 villages et la côte pour annoncer au monde que Enggano est la propriété de l'Indonésie. Enggano est l'île la plus éloignée en Indonésie qui se trouve dans l'océan Indien et dans le territoire administratif de la province de Bengkulu. Cette île est riche en ressources naturelles, le potentiel de la belle nature, le paysage sur la terre, sur la plage et le paysage sur la mer. L'île Enggano a une très belle plage de sable blanc, elle est très propre et très belle. En outre, là, il existe aussi de nombreux types de poissons de récifs multicolores qui peuvent être vus instantanément sans avoir à plonger parce que la mer est très claire. Donc, Enggano, souvent appelé Raja Ampat de Bengkulu, car sa beauté est similaire à Raja Ampat en Papouasie. Si vous voulez faire un voyage nautique à Enggano, il y a quelques belles plages que vous devez visiter, comme par exemple la plage de Komang. Cette plage est située à l'extrémité nord de la côte de l'île de Enggano. La plage est un promontoire composé de roches et de coraux. les roches et les récifs, ils forment des falaises abruptes. Sur la place de Comin, il y a une grotte unique qui est formée sur l'un des murs des corail, dans lequel il y a une lagune sous la forme d'un petit étang avec de l'eau claire. Cette lagune est le meilleur endroit pour se détendre et nager. En plus de profiter de la beauté des plages, les touristes qui sont à Engano font souvent le surf. Les vagues sur l'île de Engano sont très appropriées pour le surf. Cette activité peut augmenter l'adrénaline, car les vagues de l'océan Indien sur l'île de Engano, en effet, assez féroces. Pour aller à l'île de Engano, il existe deux alternatives de transport que vous pouvez choisir. Pour voyager par mer, il faut environ 12 jusqu'à 18 heures, ça dépend des conditions météorologiques, à partir du port de mer à Bengkulu. Et si vous utilisez le transport aérien, vous pouvez prendre un avion pionnier à partir de la ville de Bengkulu d'environ 30 jusqu'à 40 minutes. Malheureusement, il n'y a pas encore de logement sur l'île. Pour ceux d'entre vous qui veulent passer la nuit sur l'île, vous pouvez rester à la maison résidente. Certains résidents fournissent des maisons pour un séjour. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleurs et en pour titre, le Festival de charme de Palu Nomoni 2016. L'Indonésie est riche en diverses attractions culturelles et la beauté de la nature, ainsi qu'une variété de plats avec le goût élevé. Ce potentiel s'étend de la province de Nanggro Aceh Darussalam aux provinces de Papouasie. Cette richesse fait l'Indonésie est connue comme l'un des pays qui est une destination touristique populaire dans le monde. Cependant, le secteur du tourisme de l'Indonésie accuse toujours du retard, loin du tourisme des pays voisins comme Singapour et la Malaisie. Pour augmenter les arrivées de touristes étrangers et les touristes nationaux, l'une des zones de la province de Sulawesi Central est prête à tenir le festival, à savoir le Festival du Charme de Palu Nomoni 2016. Ces réducteurs, en septembre 2016, pour ceux qui aiment voyager, doivent être prêts à visiter la ville de Palu à Sulawesi Central. Il y a le Festival du Charme de Palu Nomoni 2016 qui présentera la culture, les rituels traditionnels et divers types de concours. Le festival aura lieu du 24 au 26 septembre. Enfin, le lancement du Festival du Charme de Palu Nomoni a été fait dans le hall de Susilo Sudirman, le bâtiment de Sabta Pesona Langdi. Le ministre du Tourisme Arif Yahya avec le maire de Palu Hidayat, le maire adjoint Sigit Purnomo Said et le vice-gouverneur de Sulawesi Central Sudarto ont frappé le gong qui marque le lancement de l'événement. Selon le maire de Palu, Hidayat, cet événement vise à promouvoir la ville de Palu comme la principale destination touristique dans le centre de Sulawesi et augmenter la visite des touristes qui ciblent cette année 500 000 touristes nationaux et 25 000 touristes étrangers. L'objectif le plus important du festival est d'augmenter l'économie de la communauté de Palu. Hidayat expliquait, ce festival annuel est organisé depuis 2008. sous le nom du Festival de la baie de Palu. Pour 2016, cet événement a changé son nom au Festival du charme de Palu Nomini. Nomini, selon la langue locale, signifie sonner. Ce festival présentera les attractions intéressantes, entre autres les arts culturels. La première activité au long de 7,2 km, il y avait 520 points d'épère de la torche. Ensuite, il y a la flûte et un tambour étantiron et les torches qui allument simultanément lors de l'ouverture du festival. La deuxième activité, le rituel coutumière. Il y a aussi la scène culturelle au long de 7,2 km. Ce qui rend ce festival unique est que les touristes seront transportés avec la voiture à cheval pendant le festival. Le Festival du charme de Palu Nomini 2016 sera également animé par un marathon qui sera en concurrence 3 numéros. Tout d'abord, la plaine marathon avec la distance de 42,195 km, puis half marathon de 21,1 km, ainsi que la classe de 10 et 5 km avec un prix total qui atteint 400 millions de rupiah. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir avec le titre Festival du charme de Palu Nomini 2016. Demain, nous nous retrouverons avec le sujet plus intéressant. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant au divertissement avec la couleur de la musique indonésienne qui vont vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.vo.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse talentueuse de l'Indonésie, Chris Dayanti. Voici sa première chanson intitulée « Ma prière, mon espoir ». Bonne écoute.
Dunia ini kan terasa benar.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Chris Dayanti intitulée « Ma prière, mon espoir » qui raconte la vie humaine ne peut pas être séparée de l'épreuve. Cette chanson est la bande sonore d'un feuilleton religieux du même titre. Ce feuilleton, mettant en vedette par Chris Dayanti, a été diffusé pendant le Ramadan 1998. La carrière de Chris Dayanti au KD dans la musique a commencé quand elle a gagné le festival Asia Bagus au Japon en 1992. Elle a rejoint Warner Music Indonesia et a sorti son premier album en 1995 intitulé Terserah en 1995. Depuis le succès avec le hit single Menghitung Hari en Malaisie en 1998, le nom Chris Dayanti est plus connu. Le point culminant de sa carrière a été marqué par le succès de son premier concert solo intitulé KD en 2001. Qui l'a conduite au titre Pop Diva Indonesia. Selon l'information, KD est devenue la chanteuse la plus chère au cours de la décennie des années 2000. Bon, Sarditak est maintenant la deuxième chanson de KD intitulée Ya Rahman Ya Rahim. Bonne écoute.
Betapa kau mengasihi kami dengan rahmatmu kau ciptakan semesta ini dengan rahmatmu kau terangkan di siang hari dengan rahmatmu kau berikan udara air di setiap waktu setiap penjuru Ya Allah Betapa kau menyayangi kami Dengan rahimu kau ampuni dosa Kau berikan jalan lurusmu Dengan rahimu kau berikan Cinta abadi yang hanya untukmu Hanya untukmu
Auditeur, c'était la chanson de KD intitulée Ya Rahman Ya Rahim. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ca.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. comme l'une des chanteuses la plus réussie dans l'industrie de la musique indonésienne, Krisdayanti a été honorée de plusieurs prix, tant à l'intérieur et à l'étranger. Krisdayanti a été nommée l'un des 10 plus grands artistes asiatiques par Channel 5 en 2015. KD a également remporté Anugrahas dans la performance Anugrah Planet Music 2007 à Singapour grâce aux résultats et son dévouement dans l'industrie de la musique. Krisdayanti est aussi l'une des 99 femmes les plus influentes en Indonésie, la version du magazine Globe Asia pour l'édition d'octobre 2007 et les 50 meilleurs chanteurs indonésiens de tout le temps, la version du magazine Rolling Stone pour l'édition décembre 2010. L'âge n'est pas un obstacle pour KD de continuer à travailler. Récemment, Krisdayanti prépare les chansons internationales. Avec son mari, Raoul Lemos, KD vient de terminer l'enregistrement des chansons gérées directement par le producteur Mathieu Camargo aux États-Unis. Mathieu Camargo, connu comme un producteur de frottement, Shakira et Justin Bieber sont les chanteurs mondiaux qui ont collaboré avec lui. Bon, Sarita, avant de terminer notre programme, voici les deux chansons de Krisdayanti intitulées Bismillah et Surga yang tak dirindukan. Bon écoute et au revoir.
Hangatkan
Chers amis, il y en a des différents tous les jours, alors n'oubliez pas de nous rester fidèles, donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez des quatre coins du monde. C'est la fin de notre émission en français de la Voix de l'Indonésie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.